Bonsoir.
Et bonsoir.
Bon bah ça y est, hein, c'est le monde d'après. Ça fait peut-être même un petit moment que ça y est. Enfin je crois. Bref, donc on s'est revus, on s'est demandé dans quelles conditions et on s'est revus. On a causé, on a revu un peu notre rétro-planning des futures émissions parce que quand même on avait besoin de partager sur ce qui venait de nous arriver, qu'est-ce qu'on pouvait en faire ou en dire. Essayer de déblayer un peu le terrain. Chercher quelques pistes pour comprendre ce qui paraît déjà lointain et qui pourtant n'est pas fini. Pas très clair ? Bah pour nous non plus, à vrai dire. En fait, on s'est surtout questionné. On a pensé propagande d'État, rapport au corps, rapport à la mort, réaction individuelle et collective, en particulier en comparant avec l'épidémie de VIH. On vous livre donc ce premier bras zéro du monde d'après, pas tout à fait post-Covid, pas encore dépatouillé de tout ça, avec en bruit de fond un « qu'est-ce qui se passe si ça se repasse et qu'on nous confine à nouveau ?» Bref, quelques montages, pas mal d'impro et surtout plein de questions.
Alors, pensez le Covid-19, le corona, la grippette, le confinement, etc.
Quelles ont été tes réactions face à l'annonce d'une pandémie mondiale, avant l'annonce, lors de cette annonce et ensuite ?
C'est difficile de se rappeler, mais en gros, je me rappelle assez bien d'un vendredi soir, il y a une soirée chez des amis. Et déjà, je me demande si c'est juste de se retrouver à plein, etc. Et j'ai plus envie d'avoir des contacts directs, etc. Je commence à me poser la question de comment faire. Je commence à regarder les chiffres des morts. Je commence à essayer de penser à me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est exactement.
Je crois qu'au début, avant que le confinement soit annoncé et tout ça, plutôt je me suis dit est-ce qu'on n'en ferait pas un peu beaucoup juste parce que c'est des pays commercialement importants qui sont touchés.
Ça m'a pas trop fait flipper, je crois que j'ai pas... Comme je suis pas une accro des infos, il y avait un truc qui se passait en Chine, bon, ça venait un peu en Italie, mais ça m'inquiétait pas plus que ça. Et après, quand ça s'est un peu accéléré, là, le week-end du 14-15, là, ouais, c'est comme si, bam, gros choc, je venais de comprendre, les écoles l'ont fermé, il va se passer ça, on va plus pouvoir sortir, bon. Et j'étais en mariage avec des copines et là d'un coup on a parlé de ça tout le week-end et là c'est comme si j'avais vu il y a ça qui nous tombe dessus quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait un peu l'effet du jour des tours jumelles qui sont tombées ou un truc comme ça quoi. On se dit ah c'est quoi qui va se passer ? Ça va être quoi le monde d'après ? Enfin voilà, un peu de, là j'ai compris l'ampleur du truc. Et après, deux jours après, en rentrant chez moi, en fait, les gens n'étaient pas du tout sur ce mode-là. Ils étaient limite au courant qu'on était confinés. Et moi, je parlais que de ça, j'étais sur ex. Et d'un coup, il y a eu un décalage. Et au bout d'un jour ou deux, on m'a dit « Arrête de nous filer des infos toutes les deux minutes, arrête de cliquer. » Puis bon, après, ça s'est équilibré. Moi, je me suis calmée. Les autres sont quand même intéressés à l'histoire. Et, enfin, voilà, après, on s'est tous plus ou moins compris là-dessus. Mais c'est vrai que ça a été... un choc. Un gros choc quand même.
Mais je me souviens plus trop en fait. Je crois que c'était assez irréel pour moi ce truc de confinement. En fait, je crois que j'ai réalisé petit à petit ce que ça voulait dire. Sur le coup, je me suis juste dit que c'était un gros truc, mais je sais pas, je crois que j'ai pas trop réalisé en fait.
Bah,
j'ai eu l'impression, face à l'annonce d'une pandémie mondiale, j'ai eu l'impression de, que c'était une sorte de suite logique de catastrophes qui se sont produites lors des dernières années, et du coup de pas vraiment être surpris, en fait, de, d'avoir l'impression que ouais, tout ça est normal, en fait, que c'est voilà, une pandémie, puis après c'est une pluie de criquets, et voilà, dans une espèce de suite logique. Et ne pas savoir quoi penser, ne pas savoir comment réagir, ne pas savoir penser avec d'autres. Ensuite, confiner et d'abord être complètement pris par le truc. Et du coup, mon cerveau était aussi confiné dans les 65 mètres carrés de mon appartement et que du coup, j'arrivais plus à penser autre chose que qu'est-ce qu'on va faire pendant autant de temps.
Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va se voir lundi avec Brasero ? Est-ce qu'il faut pas un peu arrêter nos trucs ? Voilà. Comment est-ce qu'on discute ? On discute pas tout de suite à la maison. C'est un peu chacun, chacun fait comme il peut et on va discuter progressivement. Donc ensuite, où on va ? Moi, je vais être un peu dans un truc distance physique et précaution. Ce qui nous arrive, c'est solide. Je regarde l'Italie et je me dis oulala. Je commence à me dire que voilà, faut prendre au sérieux cette affaire. Et puis on commence à prendre des précautions qui, pour autant, nous empêchent pas de vivre.
Moi, j'ai eu un confinement plutôt agréable, plutôt confortable. Du coup, au jour le jour, ça allait. Mais d'un temps en temps, il y a la réalité qui te rattrape et bam, tu te dis ah merde. Enfin, des bouts de réalité qui te tombent sur la gueule et tu te dis mais. Ah ouais, en fait, on en est là. Ah, mais il est vraiment en train de se passer ça. Enfin, voilà, avec des petites montées comme ça d'angoisse de temps à autre, quoi.
Bon, bah, la pandémie, c'est très grave, surtout que ça touche... on est inégal par rapport à ça, que... Bah, c'est encore une manière de... Enfin, c'est encore une manière... C'est... Les personnes les plus fragiles sont les, mais pas, je parle pas de plus fragiles physiquement, mais fragiles socialement et avec une place fragile dans la société, sont celles qui sont les plus touchées. Et donc après, ça remet en question évidemment le confinement, les politiques de confinement, comment on les applique, comment on décide de ne pas les appliquer, tout ça.
Je m'appelle Mathias et je pense une des raisons pour lesquelles j'ai ce micro à la bonnette jaune face à moi aujourd'hui, c'est parce que je fais des recherches universitaires sur le mouvement homosexuel dans les années 70 au début des années 80 et donc aussi autour des débuts de l'épidémie du sida en France au début des années 80.
Est-ce que spontanément, déjà, toi, tu fais des liens ?
Là, ça me fait penser à... Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, je pense qu'il faut... Si on essaye de trouver des liens et des comparaisons entre Covid et VIH, avoir en tête la question de la temporalité, c'est crucial. En 82, 83, 84, au maximum, c'est quelques dizaines de personnes qui meurent du sida en France. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont... faible à ce moment-là. La tuberculose tue beaucoup plus encore. Voilà, il y a encore d'autres maladies qui sont là beaucoup plus prégnantes et qui tuent beaucoup plus. En fait, personne ne sait la catastrophe qui s'annonce. Et je pense que c'est une des grandes différences avec ce qu'on vit avec l'épidémie de Covid, c'est la temporalité. Et comme toute épidémie, en fait, la multiplication des cas, elle va se faire, mais sur un temps beaucoup plus long. Donc on passe de 50 cas en 82 à, je dis au pif, hein, mais à 100 en 83, 200 en 84. Et à partir de 85-86, là on va avoir une multiplication des cas. On va avoir un doublement annuel des malades. Et à partir de 86, on va, c'est le moment où on passe le cap des 1000 malades. Et donc là, le doublement il va être très rapide et va s'étaler donc jusqu'aux années 90 où on va avoir... des dizaines de milliers de personnes contaminées et plus de 40 000 personnes qui vont en mourir en France.
Du coup, moi, c'est vraiment une perspective moi, qui me paraît assez importante quoi, dans ce que je projette du rapport qu'il y a entre les deux. C'est à un moment, il faut se saisir de la réalité, la comprendre pour s'en protéger, pour survivre. et survivre n'étant pas seulement continuer à vivre, c'est-à-dire continuer à respirer, etc., ne pas mourir, quoi. Survivre n'étant pas seulement ne pas mourir, mais aussi continuer à vivre sa vie, quoi, et sa sexualité, entre autres choses, mais... Et qu'à des moments de confinement, pour revenir sur le Covid, toute proportion gardée évidemment, mais le confinement c'est un peu, moi je le vis un peu à des moments comme l'abstinence, et comme le pape qui dit, bah, de toute façon il faut s'abstenir et puis c'est réglé quoi. Et parce que le Covid, si on sort dans la rue, il nous saute à la gorge. Et ça me rappelle, moi j'ai pas eu de sexualité avant le sida, mais j'étais adolescent quand le sida arrive dans les médias, quoi, dans une période où le sida arrive et on en meurt. Et donc la perspective de commencer la sexualité avec ça. Et avec ce truc, moi je me rappelle très clairement de penser que genre, si on fait l'amour et qu'on n'est pas propre, on peut avoir le sida. Et du coup, ce qui offre une perspective complètement flippante, parce que du coup, tu vois... Tu peux pas échapper, quoi. Et ma question, c'est celle-là, c'est justement comment est-ce que on passe du désespoir s'équiper pour comprendre et agir.
Il y a quelque chose qui fait le lien entre les deux, mais qui est pourtant diamétralement opposé entre ces deux histoires, c'est la gestion politique des corps. Avec le Covid et avec le confinement, on a une gestion politique des corps qui est imposée par l'État et qui nous oblige à rester chez nous. Avec le sida, c'est une toute autre histoire qui va se passer. Dans le sens où, donc, on l'a dit tout à l'heure, l'État fait rien. Les connaissances médicales, elles sont absolument inexistantes. Mais des assos vont se constituer dès le départ. Et ces assos vont faire le taf d'apprendre et d'imposer au corps médical, tout comme à l'État, de travailler ensemble dans la perspective contenir l'épidémie ou en tout cas d'avoir une action dessus. Et en fait, c'est ces mêmes assos de lutte contre le VIH et le sida qui vont elles-mêmes construire une nouvelle gestion politique des corps. On a d'abord une tentative de la part de l'État en 1983-1984 qui va foirer complètement, ou en tout cas qui va être simplement répressive, qui va être de la fermeture des backrooms dans les bars, et donc qui vont considérer qu'en interdisant aux PD de baiser, ils allaient arriver à faire comme ça. Et en fait, ce que vont faire AIDS et plus tard ACT UP, et tous les autres assos, hein, bien évidemment, qui se sont constitués, c'est d'un côté agir sur la prévention en créant une nouvelle gestion politique des corps à part l'usage du préservatif, et qui, comme tu dis, nous a complètement marqué, nous, les générations qui sont venues après, ou moi, pareil, en tant de la génération de la fin des années 80, il était inconcevable pour moi... d'avoir une sexualité qui ne soit pas protégée. Donc ils vont développer tout un rapport au safer sex qui va être diversement apprécié aussi. Il y a ces personnes qui vont encourager la monogamie, pratique de masturbation ou donc de safer sex en usage du préservatif. Mais ça, ça va pas correspondre à tout le monde. Et puis, par exemple, on peut penser à la fin des années 90 ou au début des années 2000, avoir un personnage comme Guillaume Dustan, par exemple, qui, lui, revendique le droit de tomber malade et de faire ce qu'il veut de son cul et de sa bite, et que s'il veut baiser sans préseau, il peut le faire aussi. Mais ce que vont faire ces assauts-là, en plus que de la prévention pour que les gens crèvent pas, c'est construire toute une politique autour de tout ça, quoi. De l'accompagnement des malades, de prendre soin de ses proches, vont développer toute une approche d'être les experts de leur propre vie, les experts et les experts de leur corps, et donc que ça peut pas être l'État qui va imposer ça. Et vont aussi imposer une lutte politique particulièrement forte, qui pour le coup est là, une politique qui réclame une attention de la part des autorités gouvernementales et étatiques de prendre en charge en fait cette maladie.
Et moi, je me pose cette question aussi du rapport à l'invisible, c'est-à-dire voilà, on ne sait pas à quoi ça ressemble, donc on ne sait pas comment ça se transmet, etc. Et du coup, on peut se sentir à distance ou pas. Donc ça peut se transformer en peur ou en inconscience, hein, donc t'en parles. Et j'ai l'impression qu'on a un peu la même relation, là, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont peur des corps des autres. Ou l'inconscience, c'est le seul moment où on peut continuer à vivre. Et du coup, pour se rendre compte de ce qui se passe, j'ai l'impression que beaucoup de gens, et moi c'est aussi ce que j'ai fait, on va chercher des chiffres. Et un peu ce que tu disais tout à l'heure, à partir de combien de morts, est-ce que c'est sérieux ? À partir de combien de gens malades, est-ce que c'est sérieux ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on le prend au sérieux ? Où on ne prend pas au sérieux, et est-ce que toi tu sais de comment ça se passe justement de cette prise de conscience de l'épidémie de sida, quand tu dis il y a d'abord une dizaine de morts et ensuite etc, comment ça joue cette histoire de mettre une réalité quoi, une réalité sur quelque chose qui ne se voit pas forcément directement?
Je crois que c'est la réalité qui va rattraper les personnes au milieu des années 80, je dirais, particulièrement dans les grandes villes et dans le milieu militant ou anciennement militant, où il y a un partage des corps qui est beaucoup plus développé et qui donne une situation où à partir de 85-86, les gens commencent à mourir par centaines. Et dans ce que racontent les uns les unes les autres, c'est 3 enterrements par semaine au Père Lachaise, et des rituels que les gens mettent en place plusieurs fois par semaine, qui est de prendre leur carnet d'adresses et de rayer les noms, et qui donne une situation où parmi ceux, celles, enfin surtout parmi ceux qui sont encore là aujourd'hui, leurs carnets d'adresses sont rayés aux 3/4. Et ça donne la matérialité et la prégnance de la catastrophe que les gens sont en train de vivre.
Parce que tu vois, j'entends beaucoup et c'est quelque chose dont je sais pas trop quoi faire parce que... plutôt autour de moi, c'est-à-dire voilà, dans un milieu militant, on va dire, où ça interroge notre rapport à la mort. Je suis très gêné par ce truc-là, parce que j'ai l'impression que des fois, c'est pas vrai, parce qu'on n'est pas confronté encore à la mort. Et que, pour l'instant, ça interroge le rapport sociétal à la mort, aux EHPAD, etc., et peut-être, voilà, comment meurent les vieux, oui. Mais on n'a pas encore touché, ou peut-être qu'on ne touchera pas d'ailleurs, peut-être que finalement on passera à côté de cette massivité de la mort. Mais ça m'interroge ça, c'est-à-dire que quelque part on prend avec légèreté parce qu'on ne le voit pas, et peut-être ça n'arrivera pas d'ailleurs, hein, parce que bon, au final, voilà, je sais pas. Mais du coup, je me demande, alors du coup, bon, je ne sais pas si c'est très en lien avec l'épidémie de sida, pour le coup, mais est-ce qu'on arrive à prendre conscience, à transformer une politique des corps, une politique de l'attention, sans électrochoc ? Et du coup, sans autoritaire ? C'est-à-dire, soit il y a l'électrochoc qui fait qu'on arrive, soit c'est l'état autoritaire qui nous impose la distance physique, etc.
Bah, moi, la seule chose, et du coup, j'en reviens à ce que je disais au tout départ, c'est pour moi la différence, et peut-être la différence qui aura pu jouer entre toi et moi sur notre appréhension du débit de l'épidémie du Covid et de comment on a pu réagir au départ, c'est que moi je me sens dans une filiation avec cette histoire du sida, avec cette histoire de ces orgas et de ces assos qui sont apparus dans les années 80 et qui ont produit énormément de discours sur les perspectives sanitaires, politiques et sociales, et de mener les trois, ce qu'on a largement loupé en début de confinement ici, enfin, je trouve. Et mon électrochoc à moi, il a été celui-là, de faire confiance à ces orgas, à ces assos, et finalement de suivre leurs recommandations et la manière dont elles analysaient la situation début mars, par exemple.
Quand tu dis on est passé à côté, t'arrives à développer ça ?
Ben, je vais parler pour moi, parce que je m'autoriserai pas à parler pour d'autres. Moi, je vois bien que, à mon échelle, j'ai été complètement sidéré par les premières semaines du confinement, mais un mélange de l'épidémie et du confinement, probablement parce que j'avais jamais vécu rien de tel et que ça me semblait être quelque chose de complètement historique qu'on était en train de vivre, et que de toute façon, quoi que tu lises, t'étais surchargé par des discours et des textes, des analyses liées à la perspective sanitaire. Et vraiment pour moi, donc, cet état de sidération, il a été très lié à ce dont on parlait tout à l'heure, de moi-même être dans une réflexion, d'un côté de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire société avec ce monde, et donc de faire attention, de me confiner, mais aussi de me dire, à partir de combien de morts une épidémie commence à être sérieuse et importante et il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc j'étais en permanence à rechercher les chiffres, à voir comment la maladie augmentait pour justifier aussi ce qui était en train de se passer. Et donc mon état de sidération, j'avais besoin de justifier ma sidération, j'imagine, aussi par ce caractère sanitaire. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines que, je pense, la tension première a commencé à descendre. Tension dans laquelle on a voulu nous mettre, hein, de manière très très forte. Je veux dire, on nous a sorti un discours de guerre, on nous a dit qu'on était en guerre. Enfin, c'est quelque chose que moi, je n'avais jamais vécu, je n'avais jamais entendu. Et donc, de commencer à chercher à trouver d'autres pistes de réflexion et de compréhension de ce qui était en train de nous arriver, et d'arriver à une espèce de conclusion, de me dire que je trouve qu'on était beaucoup dans de l'analyse de discours et qu'on a mis énormément de temps avant de construire du discours autour de ce qu'on était en train de vivre, et que c'est relativement peu moi ou mes proches qui ont produit ce discours. C'est plutôt, en tout cas pour ma part, hein, toujours ces orgas et assos ou personnalités qui ont été en lien avec la lutte contre le VIH et le sida, qui à un moment donné sont les premiers et les premières, moi je trouve, sortis de la léthargie de la production de discours.
Est-ce que tu arrives à formuler pourquoi ? Parce que même si c'est un peu épars là dans le. Et comment aussi peut-être ?
Peut-être comme pour toute situation, qu'il faut d'abord s'y confronter, la vivre, la ressentir avant de pouvoir émettre un recul, un regard sur quoi que ce soit. Un peu de la même manière que les militants au début des années 80, quoi. Oui, en fait, ils mettent. Bon, même si cette histoire de la temporalité, elle est vraiment très importante et que on joue pas sur la même avec le VIH, mais dans les premiers temps, il y a ce truc d'incompréhension, de méconnaissance, de refus, de rejet, qui fait que là non plus, il n'y a pas de discours qui est construit véritablement. À nouveau, c'est plus de l'analyse de discours, c'est contre la fermeture des backrooms, c'est pour ceci ou contre cela, mais c'est pas au sein de la communauté que quelque chose, enfin, ça va prendre plus de temps avant que ce soit au sein même de la communauté que va émerger un discours. Et que après, pourquoi après, enfin, après là, ça serait du coup dans des termes beaucoup moins historiques ou quoi que ce soit, mais je considère que nos milieux politiques dans lesquels on traîne aujourd'hui, on n'a aucune stratégie. On est dans du coup par coup, à malgré tout suivre un agenda national dicté par des instances politiques qui ne sont pas nous. Et que finalement, la seule ou les seules choses qu'on a réussi à faire ou à tenir pendant ce confinement, c'est ce qu'on arrivait déjà à faire avant, quoi. Qui était mettre en place certaines formes de solidarité avec les plus précaires d'entre nous, quoi.
Mais aussi, peut-être, juste de, c'est pourquoi est-ce que des personnes qui sont plus sensibles à cette question de l'épidémie-là ou dans cette filiation-là vont réagir plus vite, sortir de la sidération plus vite, selon toi? Est-ce que tu arrives à nommer précisément pourquoi, eux?
Je sais pas, peut-être quelque chose de l'ordre de la construction à un moment donné de mécanismes de réaction qui sont communautaires. Et on a, il y a des grises, des grilles d'analyse et de lecture qui sont posées sur une situation, sur une épidémie, sur l'épidémie du VIH. Des gens qui ont expérimenté aussi dans leur chair ce qu'était l'épidémie. Et qui donc ont aussi une espèce d'expérience de cela. Aussi, je pense qu'il y a quelque chose de très factuel qui a joué, c'est que dans le discours que Macron il a fait le 12 mars, il a dit qu'on était en train de vivre la pire crise sanitaire depuis le début du XXe siècle, et il a volontairement omis l'épidémie du sida, qui a créé tout un effet de réaction au sein des personnes et des assos concernés, et qui en ont peut-être profité aussi à un moment donné de mettre en place proposer une espèce d'expertise en fait de réactions passées pour pouvoir les mettre en place aujourd'hui.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Le fait a été maintes fois commenté. Nous sommes passés de « Tiens, il y a un truc en Chine, bof, pas grave », à « Attention, c'est la fin du monde !» En très peu de temps, nous sommes retrouvés littéralement bombardés d'informations. Une véritable saturation de l'espace médiatique que les mots du presse avaient anticipé. Nous sommes en guerre! Et à la guerre, comme à la guerre, la machine à propagande se met en route. Après nous avoir rassurés, il fallait nous faire peur, nous faire rentrer chez nous, fissa, fissa. La grippette est devenue peste. Les contrevenantes insouciantes qui traînassaient dans la rue des bombes bactériologiques. Les soignantes, ces gentilles personnes en blouse tellement dévouées, nous demandaient de rester chez nous. C'était le seul moyen pour qu'elles puissent tenir le coup face à la vague. Il fallait le faire pour les personnes fragiles, ces gentilles personnes dont la vie était en danger du fait de notre inconscience. Et le conseil scientifique, ces gentilles personnes tellement savantes qu'elles pouvaient nous dire enfin à quoi nous en tenir dans ce monde incertain, nous disaient « Restez chez nous ». Et puis il y avait Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, les mails qu'on recevait, les fils Telegram, WhatsApp, Signal, des chiens de texte de toute tendance qui nous arrivaient. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'étais pas plus avancé. Comment on fait pour se faire son idée à soi dans ce brouhaha, dans ce méli-mélo d'enjeux? Et plus que jamais, il ne s'agissait pas juste de se faire une idée, il fallait agir, il fallait pouvoir bien faire, ou au moins ne pas mal faire. Le comptage des morts est devenu une sorte de mesure de la gravité, que ce soit le décompte journalier ou la progression, la comparaison avec les morts de la canicule, ceux de la grippe saisonnière, des accidents du travail ou de la moyenne des morts de l'année. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin que ce soit grave pour pouvoir agir? C'est quoi la limite qui fait que ce n'est pas si grave que des gens meurent? À partir de combien de morts c'est grave? Puis il y avait le virus. Il est comment le virus? Il passe par où? On peut faire quoi pour s'en prémunir et prémunir les autres? Laver les courses, changer de vêtements, ne pas sortir, ne pas toucher les autres? Je l'ai eu, tu l'as eu? Comment savoir? Et à chaque fois, 10 000 avis, 10 000 infos, ou pas d'infos du tout. La radio, les médias, les réseaux. Off. Perso, à un moment j'ai craqué. J'ai coupé la radio, arrêté de lire. Juste des séries romantiques et des livres théoriques. Rien à voir, merci, bonsoir, fermez les rideaux. Je n'ai plus qu'une seule source d'infos, le tableau de la Johns Hopkins University. Un suivi mondial qui, pour chaque point de collecte, souvent national mais parfois régional, il y a des endroits où tout n'est pas centralisé, pour chaque point de collecte donc, on trouve un nombre de cas, un nombre de décès, un nombre de personnes rétablies et quelques courbes. C'était mon tableau de bord de la gravité de la pandémie. Rouge sur noir, le site est sobre, on dirait un diagramme boursier. Et là, on se rend compte que finalement, bah, rien n'est comparable. Chaque pays a son propre système de comptage, il y a ceux qui font des tests, d'autres pas. Il y a ceux qui comptent pour toutes les personnes décédées, d'autres pas. Pipeau, quoi. Pourtant, j'y reviens, il y a quelque chose qui ressemble à une info fiable. Un truc qui n'est pas transformé, une sorte d'AMAP de la statistique. Un panier avec des trucs chelous dont on ne sait pas quoi faire, mais qui en même me donne plus confiance. C'est brut, c'est sans filtre. Et c'est vrai que c'est bien mieux que la propagande déversée en boucle dans la grande distribution médiatique. Pourtant, ça n'empêche que la gravité se compte en morts et ça construit le problème et les réponses qu'on peut y donner. Tout le reste passe à l'as, la première ligne, voilà l'important. Et les brigades de ceci et les brigades de cela. Le vocabulaire guerrier nous envahit et me voilà toujours aussi démuni pour pouvoir agir. C'est-à-dire pour pouvoir prendre ma part de responsabilité face à un truc qui peut faire du mal. Combien, comment, je sais pas. Pourtant, j'ai pas besoin que la gastro tue pour me laver les mains quand elle traîne par là. Je n'ai pas besoin que le rhume soit mortel pour mettre une écharpe. Je n'ai pas besoin d'un conseil scientifique ou de gentilles personnes en blouse blanche pour prendre soin des autres. Enfin, j'espère. Par contre, la peur ne m'aide pas. Le virus ne va pas me sauter à la gueule si je sors. Je peux aller aider d'autres personnes qui en auraient besoin. Je peux même aller me promener si c'est bon pour moi. Je suis pas une machine à transmettre. Je peux faire attention, savoir les modalités qui rassurent les autres, réduire le risque. C'est-à-dire essayer de comprendre et de voir quels gestes peuvent être les plus favorables pour moi et pour les autres. Encore une fois, le spectacle médiatique n'a pas servi à ça, bien au contraire. Encore une fois, la propagande autoritaire a primé, l'injonction et le contrat l'ont prévalu. Covid, 1984. La guerre, c'est la paix, l'isolement, c'est le soin, la police, c'est la protection, la solitude, c'est la sécurité.
Les temps sont durs, c'est pas Mariole. Vivement que revienne le choléra. Je pourrais changer de chignol et me payer le cinéma. Et si le choléra marche bien, je pourrais faire des folies. J'agrandirai mon magasin et je prendrai des apprentis. Je serai la maison borgnole, le supermarché de la mort, cercueil à fleurs pour les pauvres mômes et à roulette pour les vieillards. Je serai la maison borgnole, borgnole, borgnole.
C'est comme si, en fait, cette maladie, elle faisait la loupe sur tout ce qui marche pas. Et que l'on se dit, ah ouais, ça y est, là, c'est très, très grave. En fait, il faut vraiment qu'on change de mode de vie. On le savait déjà. Mais là ça urge et comment on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on peut réagir à ça? Ouais, c'est ça qui me fait peur, plus que la maladie elle-même en fait. La maladie, moi perso, elle me fait pas très très peur et j'ai pas l'impression que. C'est comme si j'avais l'impression que les gens autour de moi pouvaient pas tomber malade ou en mourir. Du coup, c'est vraiment une peur. Ouais, une peur politique et sociale quoi. C'est quoi ce monde de merde dans lequel on est? Et est-ce que vraiment on va droit dans ce monde de distance sociale, d'ordinateur, d'écran et d'inégalités toujours plus poussées et tout ça. C'est vraiment ce type de peur-là que j'ai, beaucoup plus que peur du Covid, quoi.
Cet épisode-là, j'ai l'impression que ça crée un climat de méfiance. Enfin, j'ai peur que ça crée un climat de méfiance des uns envers les autres, de méfiance aussi de trucs qu'on voit pas et du coup de super précautions faites sans trop de rationalité quoi.
Voilà, j'ai vraiment peur de qu'on s'habitue à ça, qu'on s'habitue à ces gestes barrières, à cette distanciation sociale, à vraiment rester loin les uns des autres et que du coup on finisse par être dans nos corps chacun individuellement et qu'on enfin, voilà, on fasse plus jamais corps quoi. Ouais.
J'ai peur de la peur, j'ai peur de ce qu'elle me fait faire ou pas faire, et j'ai peur aussi de faire comme si de rien n'était et de pas prendre la mesure de ce qui se passe, de pas être à la hauteur peut-être collectivement, individuellement, pas faire gaffe, laisser passer des choses, oublier des gens. J'aime bien le slogan « Ne laisser personne derrière », qui a finalement pas tellement tourné en français. Je crois que en anglais, je le vois pas. Je l'ai vu écrit comme ça un peu sur Twitter, etc. Et ce truc de comment est-ce qu'on fait pour rester attentive à ceux et celles qui sont autour de nous, qu'on n'entend pas forcément, qu'on connaît pas. Voilà.
Espace réduit durant 2 mois nous raconte beaucoup de choses. On essaye de le garder aiguisé, vif. Il ne faudrait pas qu'il se ramollisse, qu'il ne soit pas à la hauteur des jours meilleurs approchant. Il est temps pour lui de profiter de ces moments d'arrêt, de pause, pour s'améliorer, se développer, s'ouvrir de nouvelles portes. C'est le moment de développer des muscles encore inutilisés, de se sentir pleinement en forme.
Moi j'ai confiné avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec 7 autres corps. Et vous?
3.
Et tu l'as senti?
De quoi?
Bah le truc là de la distanciation sociale s'imprimer sur ton corps là.
Moi je vois pas ce que tu veux dire en fait.
Mais si le truc des distances physiques, des gestes frontières là, les gestes barrières là.
Ah oui. Bah, je crois que je l'ai senti, mais je pense que la première fois où je me suis dit qu'on était dans un truc comme ça, c'est que en fait je faisais la queue pour aller dans un supermarché. Et j'étais avec mon môme et la poussette, et du coup le petit il pleure, donc je le prends dans mes bras et là la poussette elle tombe. Et là du coup il y a une meuf, elle arrive en courant et pour ramasser la poussette quoi. Et elle ramasse la poussette et après elle me regarde d'un air terrifié et elle me dit oh, mais excusez-moi, j'aurais jamais dû la toucher, j'aurais jamais dû faire ça, je vous ai pas demandé, désolé. Et du coup moi je la regardais et en même temps je trouvais ça normal qu'elle ramasse la poussette et en même temps je trouvais ça normal qu'elle puisse penser que moi je pense qu'elle avait pas bien fait quoi, mais je me suis dit que c'était chaud à ce moment-là je crois. Mais en fait moi je t'avoue que les gestes barrières, en fait, j'ai l'impression que je les ai avalés, quoi. À force de les répéter, de les voir, de les entendre. En fait, j'avais pas prévu ça, quoi. Ils sont complètement intégrés en moi. Je sais même pas pour combien de temps, je sais même pas si je pourrais m'en désintoxiquer. Les mains propres, le coude plein de morve, et tout ça, machinalement, enfin, mécaniquement, enfin, mimétismement, je dirais même, tu vois.
Désolé, mais je crois que ça se dit pas.
De quoi?
Bah, mimétisme, ça se dit pas.
Annonce, stop, coronavirus. Si vous devez ramener votre cousin chez lui après un mois de confinement ensemble, ne vous asseyez surtout pas, tous les deux à l'avant. Installez-vous au quinconce et préférez discuter via le Bluetooth.
Bah ouais, le quinconce, c'est comme les classeurs là quand on était à l'école primaire. Pour qu'ils rentrent dans les casiers, il fallait mettre les classeurs en quinconce. J'avais un instit qui me disait mettez vos classeurs en quinconce, comme ça tout le temps. Là.
L'idée est simple. Développons. Guénon, couchons, développons, tractons, jardis, guénon, encore et encore. Chacun y allant de son conseil pour ne pas perdre la forme. Rester straight, alerte, efficace. Se dire que ce temps est précieux et qu'on doit l'utiliser pour nous bonifier physiquement. Devenir des machines de bien-être physique. Un esprit sain dans un corps sain.
Et t'y penses toi quand tu fais la bise? Enfin, tu fais la bise au fait?
Je crois que ça me gêne.
Ma question?
Ah non, et je crois que ça me gêne de pas savoir si je dois faire la bise ou pas, à qui, quand. Du coup, je crois que je fais un immense déni.
Ah. Ouais, en même temps, comme ça, on n'est plus obligé de faire la bise à tout le monde sans distinction. Genre, quand t'es enceinte, on ne touche plus le ventre à tour de bras. Quand t'es une meuf dans le métro, on ne touche plus le cul. Tout ça, quoi.
Ouais, ça serait bien, oui. Peut-être.
Moi, j'avoue, j'ai l'impression... j'ai pas l'impression de faire la bise. J'ai l'impression de me faire faire la bise. Enfin, tu vois, ce truc de subir un peu les joues des uns et des autres. Ouais.
Est-ce que vous croyez que, du coup... on a remplacé la chaleur humaine par un autre truc?
Bon, peut-être bien avec un poêle à bois ou alors le réchauffement climatique.
Est-ce qu'on s'est mis à plus regarder nos corps? Leurs symptômes? Fièvre, perte de l'odorat du goût, courbature, maux de tête, fatigue, diarrhée parfois? Enfin, leur bonne forme, leur musculation, leur élasticité, leur poids, leur mesure. Corps de rêve, mais le rêve de qui?
Ouais, enfin moi j'ai l'impression que ça accentue encore la distance qu'on met entre soi et son corps. On l'utilise que pour faire joli. Alors fais de la muscu, du yoga, mange pas trop, tu risquerais de grossir. Mais par contre, on nous a jamais conseillé de faire une cure d'orange et de magnésium pour booster les défenses immunitaires. Nous, on doit juste s'occuper à ce que notre corps soit beau, mais pour ce qui est du soin, on remet tout à la main des médecins, quoi.
Mmh. Ouais, ouais, enfin, bah, rien à voir, ça te dérange si je bois dans ta bière?
Ouais, ouais, vas-y, vas-y.
En aiguisant nos corps comme on prend soin d'un pied de tomate sur notre balcon en face du périphérique, on apprend aussi à séparer nos corps de celui des autres. Il ne doit exister aucun contact, aucun rapprochement. On ne se touche plus, on s'évite même, changeant de trottoir pour ne pas avoir à se croiser. À croire que nos corps musclés ont besoin de plus d'espace. Comme deux électrons, deux corps exercent l'un sur l'autre une force répulsive. Nos muscles saillants ne sauraient se toucher.
Tu parles de ton corps là, mais il y a le corps des autres aussi. Ton corps, il est forcément celui lié à... il est forcément lié à celui des autres.
Bah oui, oui. Mais ça me fait penser à un article pourri de Marianne là sur le. Il parlait du relâchement des homosexuels face au confinement. Il y a eu toute la propagande médiatique sur les quartiers populaires, comme quoi, tu vois, ils diffuseraient plus vite le virus. Un peu le truc des, tu vois, c'est des sauvages, ils savent pas se tenir, passer de bonne manière, plus de keufs pour moins de corps circulant.
Moi, j'enrage sur les chiffres de France Inter, là, tous les matins. À un moment donné, j'en pouvais plus, tous les matins, énoncer le nombre de corps morts. Ça faisait comme une statistique dépersonnalisée. Ouais, ok, c'était pour instaurer la peur, mais en fait, à quel moment tu manques de respect à ce point-là, à ces corps, quoi, à ces morts?
T'imagines, là, les gens qui ont des proches qui décèdent, ils ont même pas le droit d'aller à leur enterrement ou à leur crémation. Et qui c'est qui entend tous ces chiffres tous les matins, là? En plus, on n'a pas du tout l'habitude d'entendre ces chiffres. On a aucun moyen de comparaison. Tu sais combien il y a de personnes qui meurent chaque jour, toi, en temps normal?
J'en ai aucune idée, mais je crois que j'ai pas du tout envie qu'on prenne l'habitude d'égrener ces chiffres le matin à la radio.
À l'école, on fait le flamant rose pour garder le maître de sécurité. On saute dans des cerceaux pour ne pas se frôler. Dans les magasins, on suit un parcours précis, millimétré, permettant de rester seul avec soi-même. De ne pas être un danger et de ne pas rencontrer de danger. On ne se déplace plus, on parcourt. À la manière d'un jeu vidéo pour ne surtout pas perdre de points de vie. L'ennemi est partout. Ligne jaune, ligne rouge, numéro 45, gants, masque, nous sommes parés. On ne fait plus corps, ou en tout cas, on nous pousse à ne plus faire corps.
C'est, Circulation des corps remise à autorisation. T'as mis un faux nom, toi, sur ton atteste ou...
J'ai même pas pensé à faire ça. J'y ai même pas pensé. Pour d'autres trucs, j'y pense, mais là, j'y ai même pas pensé. En même temps, la circulation remise à autorisation, c'est pas nouveau. Hein. Mais là, en fait, ça a changé d'échelle. Et c'est les concernés qui ont changé aussi.
Ouais, et puis d'abord, c'est quoi les corps qui étaient bien confinés? Lesquels ont dû aller bosser, par exemple? Corps contrôlés, enfermés, plus qu'enfermés, isolés. Ceux et celles plus marqués par la violence conjugale, la violence d'État, la violence de l'isolement.
Est-ce que vous croyez que... que si un corps ne rentre en contact avec aucun autre corps, au bout d'un moment, on meurt?
Je t'avoue que j'en sais rien et que j'ai pas vraiment envie de le savoir.
Tu préfères être confiné avec ton meilleur ami dans 9 mètres carrés ou avec ton pire ennemi dans 200 mètres carrés?
C'est chaud, ça.
Et puis nos corps, enfin... il a fallu les protéger des autres corps. Alors on les cache, on cache nos mains pour ne pas toucher, nos visages pour ne pas voir. Chaque corps nouvellement amélioré est un secret pour celui ou celle qui le porte. Notre corps disparaît peu à peu dans l'espace public, fort à l'intérieur, invisible à l'extérieur. Un corps mutant, un corps nouveau, un corps sans peau qui se dilue bien dans les mondes numériques, modernes et capitalistes. Le corps organique, potentiellement contaminant ou contaminé, devient monstre et est écarté pour ne plus devenir qu'un corps épuré. Poste domestiqué et survie.
Mondial qui fait trembler le capital, qui fait fermer les usines, qui fait arrêter les machines. Sans son nom, non, que c'est le coronavirus. Sans son nom, non, que c'est le coronavirus. Qui fait dépenser moins de pétrole, fermer les facs et les écoles, qui fait baisser la pollution, est-ce enfin la révolution? Sans son nom, non, c'est le coronavirus. Sauveur son nom, non, que c'est le coronavirus. Qui passe en douce toutes les frontières, se répand plus vite que nos idées, les empêche de faire des affaires, est-ce une révolte mondialisée? Sauveur son nom, non, que c'est le coronavirus. Sauveur son nom, non, que c'est le coronavirus. Dès qu'il est entré dans la course, ça fait dégringoler la bourse. Il a pas de loi, pas de patrie, ne croyez pas que c'est l'anarchie. Sauveur son nom, non, que c'est le coronavirus. Sauveur son nom, non, que c'est le coronavirus. On va me dire oui d'accord, mais ça fait quand même des morts. Mais la faim, la guerre et le froid ont tué bien plus loin des médias. Plus, bien plus que le coronavirus. Plus, bien plus que le coronavirus. État d'urgence sanitaire décrété par le ministère. Je me signe une autorisation pour pouvoir chanter au balcon. Faut confiner, pas se rencontrer par mesure de sécurité. Pourtant ils disent qu'on doit bosser sur que le virus va pas me toucher. Tous confinés, je dois bosser, non, y'a le coronavirus. Tous confinés, je dois bosser, non, y'a le coronavirus.
Retour plateau, retour actualité. Bonjour à tous, vos corps serrés sur ce plateau. Si on a appris quelque chose quand même, c'est que la police nous déteste et que nous ne sommes pas les seuls à les détester. Il y en a beaucoup et c'est d'actualité, c'est international. Mais ce qui ne change pas non plus, c'est qu'il y a une manif en ce moment même. Une manif féministe, un 8 juin, parce que pour rappeler le 8 mars. Pour se dire qu'on ressort tout ensemble dans la rue, gueuler, et pour que ça bouge et que ça change, parce que finalement il y en a pas mal qui ont morflé pendant cet enfermement.
Et après le rassemblement de milliers de personnes mercredi dernier, qui était un rassemblement de vérité et justice pour George Floyd, pour Adama Traoré et pour la vérité et justice pour toutes et tous, eh bien, il y a un nouveau rassemblement et une manifestation ce mercredi à 18h Donc ensuite, il y aura une manifestation qui partira vers le palais de justice.
Et c'est où, du coup, le rassemblement ?
Le point de départ, il est... J'essaye de lire en même temps le point de départ.
Square Charles de Gaulle, derrière le Capitole.
Comme la semaine dernière. Le point de départ, c'est le même. C'est organisé par le comité Vérité Justice 31 et d'autres personnes, parce qu'en fait, cette semaine, le comité Vérité Justice, ils ont appelé à faire une réunion publique pour discuter de ça et pour s'organiser avec d'autres gens autour de ces questions de vérité et justice.
À Bristol, il y a un esclavagiste qui avait une jolie statue. Elle a été déboulonnée, arrachée et jetée à la flotte. Alors la question est de savoir, à Toulouse, où sont les statues de Colbert et autres négriers, etc. Et tout un tas de statues qui mériteraient notre offense éternelle et de toujours.
Et en parlant de keuf, moi aujourd'hui j'ai écouté un podcast sur Arte Radio qui s'appelle Gardien de la paix. C'est un podcast où une personne qui s'appelle Alex, qui est un policier noir, en fait, il a découvert un groupe de messages audio de ses collègues sur WhatsApp où il y a clairement des propos racistes et sexistes assumés qui vont même jusque à des propos, on peut dire, fascistes et suprémacistes. Du coup, je vous conseille cette écoute, mais je vous la conseille de l'écouter en sachant que les propos, ils sont glauques et que c'est hardcore et que la procédure, là, elle est en cours contre ces policiers-là.
Voilà, c'était Brasero et c'était une première livraison de ce que ça nous a fait, de comment ça nous a traversé. Il y en aura une seconde dans 15 jours, peut-être, si tout va bien, sur ce que ça a fait aussi à l'éducation, ce que ça a fait aux gosses, ce que ça a fait un peu dans ce secteur-là, parce que ça a quand même, notamment la reprise, là, il y a beaucoup de gens qui ont morflé, mais les gosses ont été mis dans le pire bain, dans le pire de ce que pouvait donner l'école, et pourtant l'école, il y a quand même du niveau, quoi.
Déjà pas mal.
Voilà. Donc voilà, pour l'instant c'est fini, on peut dire au revoir à tout le monde en espérant que vous trouvez bien et en bonne santé.
Et on pense fort aux braseristes qui ne sont pas avec nous. Salut, bonsoir.
Au revoir.
C'est là.
Ma grippe vous va très bien,
m'a dit mon amant ce soir.
Ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien.
Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu, j'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie. Je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis,
elles vous vont comme un gant. Vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme, elle vous rend comme un gang, 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 gang.
Ah vraiment, je suis trop maigre, je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Voyez mes bras et je dis, ah vraiment, je suis trop maigre.
Mais ces os vous vont très bien,
m'a répondu mon amant.
Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant. La mort.